Alicia, merci.
On va revenir chez nous en France avec ce chiffre. Ces chiffres qui fait beaucoup parler. Ils ont dit oui à une somme stratosphérique, oui aux 36,5 millions d'euros. Les actionnaires du groupe Stellantis réunis en Assemblée Générale cet après-midi à Amsterdam ont validé la rémunération 2023 de leur patron, Carlos Tavares. Ils ont largement voté pour, hein, à 70%, et ce en dépit de la polémique. Indécent, choquant, beaucoup s'indignent de cette rémunération. On va en parler dans un instant avec nos invités. Mais avant, Lisa, on vous retrouve. Le salaire de Carlos Tavares, est-ce un salaire si élevé? Est-ce que c'est une nouveauté pour le grand patron?
Alors, une nouveauté, non. Il a toujours touché des millions, mais ça fait peu de temps qu'il touche un salaire aussi colossal. À la tête de PSA dès 2014, Carlos Tavares touche déjà 2,75 millions d'euros. Ça double l'année d'après, 5,2 millions d'euros, et ça continue. Son salaire ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des années, mais le vrai changement, vous le voyez, se fait en 2021, passant de PSA au nouveau groupe Stellantis. Carlos Tavares a un salaire multiplié par 10. 2021, 19 millions d'euros, 2022, 23 millions et 2023, 36,5 millions d'euros. Pour s'en justifier, Carlos Tavares explique que ce sont les bons résultats de l'entreprise qui boostent son salaire, parce que ce salaire dépendrait à 90% de ses objectifs. Décomposons donc son salaire. Dans ces 36 millions, il y a une prime de 10 millions d'euros liée à la transformation du groupe créé en 2021 grâce à la fusion de PSA et de Fiat Chrysler. Il y a aussi des pensions de retraite versées sur le long terme et un bonus s'il atteint des objectifs fixés pour 2025.
Est-ce que par rapport aux autres grands patrons, Carlos Tavares est si bien loti?
Alors, Carlos Tavares dit que s'il est bien payé, vous l'avez compris, c'est parce que le chiffre d'affaires de Stellantis se porte très bien. Regardons le classement de 3 directeurs généraux automobiles très bien payés en comparaison avec le chiffre d'affaires de leur entreprise. Toutes les données sont celles de 2022 qui sont publiées qui sont des données officielles. Volkswagen, d'abord, 293 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et le salaire du directeur général s'élevait en 2022 à 7,4 millions d'euros. D'ailleurs, récemment, le groupe Volkswagen s'est lancé dans un plan d'économie de plusieurs milliards d'euros. Précision importante, pour montrer l'exemple, le directeur général a annoncé que son salaire fixe serait réduit de 5% en 2024. Ça va un tout petit peu changer la donne. Toyota a un chiffre d'affaires en 2022 de 270 milliards. Son directeur général touche 7 millions. Et pour finir, Ford, chiffre d'affaires 165 milliards, 18 millions pour le patron. Et vous le voyez, tout au bout, là-bas, à droite, c'est Stellantis pour la mise en perspective. Vous voyez également ce ratio chiffre d'affaires, salaire du patron.
Merci. Merci beaucoup, Lisa, en plateau pour en parler avec nous. Bernard Cohen-Haddad qui nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes président du think tank Étienne Marcel et de la CPME Paris-Île-de-France. Et bonsoir, Mathias Tavel. Vous êtes député la France Insoumise de Loire-Atlantique. Et nous allons tout de suite rejoindre à distance Marc Darcy. Bonsoir. Vous êtes salarié de l'usine Stellantis Poissy, délégué syndical Sud, 28 ans d'ancienneté. Comment vous avez réagi en apprenant la rémunération de votre patron?
Ah ben, elle est choquante cette année, mais elle est choquante tous les ans. C'est pas la première fois qu'il a des rémunérations de ce niveau-là. Je vois, moi, pour un salarié comme moi qui a 28 ans d'ancienneté, c'est 4 ans de salaire en une seule journée. Donc oui, c'est choquant et c'est difficile de pas être choqué par.
Vous gagnez combien, vous, Marc Darcy, si c'est pas indiscret?
Je suis à 1800 euros net par mois. Alors c'est sur 13 mois, donc ça fait dans les 23 000 net sur l'année. Donc vous voyez, on n'atteint même pas les 25 000, donc les 100 000, c'est effectivement 4 ans de salaire. 4 ans de salaire, un peu plus de 4 ans de salaire net.
Augmenté par rapport au profit de l'an passé. Vous avez reçu une prime parce que l'entreprise dit qu'elle va redistribuer 1,9 milliard d'euros à ses employés à travers le monde.
À travers le monde, oui. Alors, ouais. En ce qui nous concerne, ça va être 3 500 à peu près, 3 500 net, peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a toujours les absences qui sont décomptées, des maladies, des choses comme ça qui sont décomptées, ou les jours de grève d'ailleurs, et donc qui sont pas comptées dans la part qui nous est redistribuée. Donc c'est 3 500, donc ça fait à peu près un petit 2 mois de salaire en plus. Dans ces eaux-là, c'est pas non plus le bout du monde. Alors on en a tous besoin de cet argent-là. On le place pas spécialement en bourse ou quoi que ce soit, hein, contrairement à ce qu'on a pu entendre par ailleurs. C'est de l'argent qui nous sert vraiment à boucler des fins de mois. C'est normalement un salaire, vous voyez, au bout de 28 ans, c'est quasiment un salaire de fin de carrière. Moi j'ai 56 ans. normalement, enfin, c'est pas encore la fin de carrière, parce que évidemment, plus on approche de la retraite et plus elle s'éloigne, mais ça devrait être un salaire de fin de carrière, et 1800 euros net, c'est quand même pas un salaire de fin de carrière en même temps.
Et comment ça réagit en interne, vos collègues? Est-ce que c'est l'annonce de cette rémunération, et comme vous dites, hein, ça fait des années, mais bon, là, cette année, encore plus que d'habitude, ça crée des tensions en interne, des incompréhensions, des...
Surtout par rapport au travail qu'on a fourni. Parce que ce qui frappe le plus, c'est tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait tous les jours, tous les efforts qu'on a fournis tous les jours, à se lever, à être présent à 5h15 le matin pour travailler, pour certains faire l'équipe de nuit, pour certains enchaîner même des samedis travailler, donc des semaines de 6 jours, les week-ends qui sont flingués, tous ces efforts-là, tout ça pour ça. Tout ça pour que lui, il empoche ce pognon-là. Tout ça pour que les actionnaires gagne suffisamment pour lui verser ce salaire-là.
Il y a des licenciements chez vous à Poissy ?
Des licenciements, alors à part des licenciements, quelques licenciements pour faute un peu bizarres, mais sinon c'est surtout des départs, comme ils disent, volontaires. C'est-à-dire ou tu pars maintenant, ou alors tu vas te retrouver sur la chaîne au montage jusqu'à la fin de ta carrière, avec une production qui n'arrête pas de... Enfin, une charge de travail plutôt, qui n'arrête pas de monter, d'augmenter au montage. Donc, de plus en plus de postes qui sont de plus en plus chargés, beaucoup trop chargés pour des gens de nos âges. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, la direction du site a reconnu que les postes étaient trop chargés pour un certain nombre de personnes et qu'ils allaient devoir prendre des intérimaires plus jeunes pour pouvoir tenir les postes. Ils y ont finalement renoncé. Et ils envoient maintenant des salariés de 55, 56, 57, voire même plus de 60 ans sur les chaînes du montage, là où le travail est le plus dur, là où tous les mois, il y a des redistributions de travail, c'est-à-dire chaque mois, on va voir ajouter une petite opération par-ci, une petite opération par-là, et au final, donc des suppressions de postes. Alors c'est souvent des postes d'intérimaires qui disparaissent, alors ça ne s'appelle pas des licenciements chez PSA, pour nous c'en est. Moi, c'en est en tout cas.
Mais si je vous comprends bien, Marc Darcy, vous êtes en train de nous dire que les bons résultats de l'entreprise se font au détriment des salariés, des conditions de travail.
Exactement. On assiste à une dégradation d'année en année des conditions de travail. On travaille de plus en plus. C'est pas compliqué. D'ailleurs, les effectifs du groupe, ça se voit tout de suite. Hein. Je vois avant la fusion qui a mené à Stellantis en 2020, c'était à peu près 300 000 si vous comptiez toutes les usines à droite à gauche cumulées. En 2021, avec la fusion, ça a déjà descendu à 280 000. Et ce que j'ai entendu sur le plateau de BFM tout à l'heure, c'est qu'on était 246 000. Et là, en faisant de plus en plus de bénéfices. Donc oui, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons cet effort-là. C'est nous qui le faisons tous les jours. Et c'est nous qui payons, et on paye pourquoi ? Pour que Monsieur Tavares puisse faire le beau à la télévision en se disant c'est bon, moi j'ai 100 000 euros par jour.
La pilule a du mal à passer du côté des salariés. Merci Marc Darcy pour votre témoignage. Bernard Cohen-Haddad, les agences de conseil elles-mêmes, elles ont dit aux actionnaires, on vous déconseille de voter la rémunération de Carlos Tavares parce que ça risque de créer des tensions internes au sein du groupe, parce qu'il y a plein de licenciements, en fait, à l'échelle mondiale, les fameux plans de départ volontaires, c'est ce que nous expliquait il y a un instant Marc Darcy. Comment se fait-il que les actionnaires aient voté majoritairement à 70% et soient allés contre ces agences de conseil ?
Vous savez, quand des actionnaires votent pour un salaire de dirigeant, c'est parce qu'ils considèrent que le dirigeant a bien dirigé, que les résultats sont là. Sinon, ils ne votent pas pour. D'ailleurs, ils ont voté moins bien que l'année dernière, puisque l'année dernière, ils avaient voté à 80%. Les actionnaires, ils ont intérêt à ce que l'entreprise marche.
Et ils ont quand même voté à 70% là, cette année.
Oui, mais je ne dis pas justement qu'il y a un hiatus entre la situation qu'on vient de nous raconter et la réalité du terrain, puisque, sauf erreur, il n'y a pas de mouvement social à Stellantis.
Oui, mais alors moi, ce que j'ai du mal à comprendre, pardon, mais... On nous parle des résultats records, 18,6 milliards d'euros, et que c'est lié, effectivement, lui, ce qu'il explique, Carlos Tavares, c'est que 90% de sa rémunération est variable, en fait, est liée aux résultats de son entreprise.
Ce qui a été expliqué tout à l'heure, on l'a bien compris.
Exactement. Mais quand on regarde, Lisa nous expliquait tout à l'heure, si on regarde le patron de Volkswagen, le patron de Toyota, qui ont fait des chiffres d'affaires beaucoup plus importants encore que Stellantis, ils ont une rémunération qui est moindre, qui est de l'ordre de 7 millions d'euros.
Oui, comment mais là, on confond
la partie variable.
variable.
Voilà, on confond des choses. D'une part, la salaire, la partie variable, la retraite sur des résultats qui arriveront en 2025, et puis, si vous me le permettez, le côté légal et le côté moral. Et là, on mélange un peu les genres. Le côté légal, c'est tout simplement les actionnaires ont voté des résultats et des salaires en toute transparence. L'État s'est abstenu, l'État à 7%, il s'est abstenu. Et puis, le côté moral, est-ce qu'on peut gagner aujourd'hui 36,5 millions d'euros dans un contexte où des collaborateurs ont des difficultés à la fin du mois, des petits entrepreneurs ont des difficultés à la fin de mois? Est-ce que la politique sociétale, vous l'avez évoqué un peu, de l'entreprise est à la hauteur de ce que l'on donne? C'est ça aussi, parce que l'engagement sociétal, la RSC, l'ESG, est-ce qu'il y a de l'inclusion dans l'entreprise? Est-ce qu'on on emploie des personnes en situation de handicap, de la diversité? Est-ce qu'on fait de l'innovation? Tout ça, ça fait partie d'un débat qu'on doit avoir. On confond le légal, la rémunération et le moral, c'est-à-dire est-ce qu'on peut gagner aujourd'hui en France ce type de revenu?
Voilà. Pour moi, il y a un autre aspect quand même qui est important. Je suis chef d'entreprise. Moi, ça ne me gêne pas qu'un patron gagne beaucoup d'argent, même plus que 35 ou 40 millions. Mais passer une certaine somme, ce que l'on rémunère, c'est le risque. OK? C'est le risque. Moi, demain, je monte une entreprise ou qui que ce soit autour de cette table, il va être caution personnelle. On va lui prendre sa résidence principale si d'un seul coup, il tombe. Tavares, rien.
Mais okay. Si, c'est le risque des actionnaires, là. Non, c'est non, pas le risque de son argent, mais c'est le risque des actionnaires.
Le propriétaire et directeur.
Exactement. Donc, à un moment, la seule chose, c'est qu'on arrive à des montants de rémunération. C'est... Effectivement, il y a des écarts entre le premier dans une entreprise, le plus petit salaire et le plus gros, qui devient délirant. Quelqu'un, à l'inverse, qui monte son entreprise et qui la revendrait 100
milliards. Moi, je ne suis pas 30 TPE, je vis au quotidien ce que vous dites.
Hein. Vous ne gagnez pas 36 millions d'euros.
Oh, je ne gagnerai jamais en 10 vies.
D'ailleurs, la plupart des patrons ne gagnent pas du tout ces sommes-là. Et je pense qu'ils doivent être assez malheureux de se voir représentés par monsieur comme Carlos Tavares, qui est plutôt une offense faite à tous les gens qui travaillent. Quand vous gagnez 1700 fois le SMIC, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille au SMIC, il faudrait qu'il travaille 1700 ans pour gagner ce que monsieur Tavares va gagner en une année. Ça n'est pas quelque chose qui est ni moralement acceptable, vous
on
avez
est dans
raison,
le moral.
Ni économiquement profitable, parce que ces sommes...
Ça ferait plus Clovis, vous vous rendez compte?
Parce que ces sommes, elles sont prélevées sur l'entreprise.
Mais ce que disent les économistes, c'est que le marché du salaire des patrons répond en fait à la loi de l'offre et la demande, et que vous avez très peu, et c'est une question, pourquoi il y a très peu de grands patrons, pourquoi il y a si peu de profils comme ça, ça crée de la rareté, et derrière, ça crée des sommes qui sont astronomiques.
Cette affaire avec Goon, où tout le monde autour de cette table aurait dit c'est un génie, et à l'arrivée on a vu donnait derrière, par exemple, vous voyez, et Tavares a travaillé avec, par exemple.
Donc, ce que je veux dire, aussi des choses, c'est que quand on fait les comparaisons, il faut voir que dans la rémunération que je trouve indécente, disons le mot au départ pour être parfaitement clair, de monsieur Tavares, et que quelles que soient ses performances, on ne justifie pas ce niveau de rémunération, mais pour faire les comparaisons, il y a cette prime exceptionnelle pour la fusion qui est un fusil one shot, si je puis dire, les 10 millions de primes pour la transformation PSA Fiat Chrysler. Il y a effectivement des retraites qui seront versées de façon différenciée, enfin plus tard. Et puis, il y a, c'est vrai, ce contrat qui a été passé avec lui, qui est lié à la performance de l'entreprise. On a été parfaitement clair.
Mais monsieur Tavares a été très franc.
Voilà.
Il a fait une loi et je l'appliquerai.
Est-ce que j'ai trouvé...
Est-ce qu'on est sur la morale? Est-ce que c'est les actionnaires
Je vais aller jusqu'au bout de mon propos, puis ensuite, bien sûr, vous pourrez vous exprimer. Mais ce que j'ai trouvé en plus, la façon de s'exprimer de monsieur Tavares, c'était d'une maladresse et d'une indécence absolument incroyable. Il avait l'air d'être complètement muré dans son droit. Et j'ai trouvé que sur le plan humain, son discours était très difficile à entendre. Il aurait pu marquer au minimum un peu d'empathie. Et c'est vraiment un très mauvais communicant. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire une loi?
Alors on va y arriver.
Je me pose des questions.
On va aller. Écoutez, on va revenir sur votre proposition de loi dans un instant, mais quand même un dernier mot là-dessus. En fait, certes, dans son attitude, il fait pas forcément preuve d'une grande humanité
dans la façon dont il est.
Voilà, mais il décrit une réalité. Il décrit en fait ce qui se passe aujourd'hui, qu'il y a encore une fois très peu de grands patrons, que les entreprises se les arrachent et les actionnaires sont prêts à mettre des sommes astronomiques pour les avoir. Et ça peut interpeller quand même.
s'interpelle parce qu'il y a très peu de profils de ce type-là.
Mais pourquoi
type-là.
Il y a si peu de profils?
Et parce qu'il n'y a de pas de grands dirigeants. Il y a beaucoup de bons dirigeants et de mauvais dirigeants qui mènent les entreprises à la faillite. On pourrait faire le bilan de ces 10 dernières années où certains sont partis avec des retraites chapeaux en ayant plombé la boîte. Faut pas non plus l'oublier. La difficulté, c'est est-ce qu'on accepte des sommes exceptionnelles uniquement pour les dirigeants ou est-ce qu'on passe l'éponge quand c'est un joueur de football, un pilote automobile? Mais il faut aussi reconnaître tout ça.
On va y revenir dans un instant. Je vous propose d'écouter justement la défense de Carlos Tavares.
Plus les premiers dérivés.
On va parler d'Mbappé. D'abord, écoutons Carlos Tavares.
Quatre buts.
Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Donc, c'est ça ce que vous répondez. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Alors, Mathias Tavel, vous l'avez pris au mot. Parce que clairement, vous avez déposé aujourd'hui une proposition de loi pour fixer un salaire maximum dans les entreprises. À combien ?
On dit chiche, mais notre proposition, c'est qu'il n'y ait pas dans les entreprises d'écart supérieur de 1 à 20 entre le plus petit salaire et la plus haute rémunération.
Donc si je traduis 1700 euros brut, le SMIC, à l'année 20 400, donc à peu près 410 000 euros.
C'est ce qui est pratiqué dans les entreprises publiques, et à ce que je sache... toutes ne sont pas mal dirigées et la question de la compétence des patrons est une question qui mériterait d'être discutée. Ils cherchent des ouvriers moins chers, moi je pense qu'on pourrait trouver des patrons moins chers. Mais notre proposition, qui vise donc de limiter ces écarts, d'abord par justice, par respect pour les salariés qui travaillent, c'est aussi une proposition qui vise à créer un cercle vertueux. Parce qu'on ne dit pas c'est plafonné à 400 000, on dit c'est un écart. Si vous voulez vous payer plus que 400 000, vous devez augmenter celui qui est tout en bas pour garder l'écart de 1 à 20. Et donc si M. Tavares veut gagner 36 millions d'euros...
Donc il faudrait monter le salaire le plus bas à combien ? J'ai pas fait les calculs.
Paye le salarié de Stellantis le moins bien payé, 1,8 million. Et là, vous trouvez que c'est trop, parce qu'un ouvrier à 1,8 million, c'est trop. Mais un patron à 36 millions, c'est pas trop.
Ça se tient comme argument, Christophe.
Oui, mais vous venez de tuer l'automobile française. Néanmoins, vous avez raison, il faut une loi. Il faut une loi, mais pas celle-là. Parce qu'évidemment, à 400 000 par an, personne ne viendra. Ça sera mal dirigé, ça fera des mauvais résultats, et ça sera racheté par des Chinois, c'est peut-être votre souhait, ou par des Américains, ou par une autre firme. Non, il faut être raisonnable, mais il faut aussi viser l'excellence. Et donc, il faut un écart plus grand que 1 à 20 fois, en intégrant beaucoup dans la rémunération, ce qui est un des éléments de défense de Tavares, c'est-à-dire la prime au résultat. Le salaire fixe, là on peut être strict sur le salaire fixe, mais alors si le patron est bon et qu'il fait gagner des millions, des dizaines de millions à l'entreprise, donc à l'État avec les taxes, donc aux salariés avec les primes, là on lui donne une très très belle prime à lui. Quel est le bon étiage ? C'est pas de 1 à 20, c'est pas raisonnable. C'est sans doute quelque chose qui doit être concerté secteur par secteur, entreprise par entreprise, dans le dialogue social. Mais on voit bien qu'il faut en venir là. Parce que dit Carlos Tavares ? Est-ce que c'est légal ? Oui. Est-ce que c'est encadré ? Oui. Il y a un contrat, il y a des comités de rémunération, etc. Donc on s'en remet à quoi ? On s'en remet à la morale individuelle de celui qui dirait « Non, je veux pas gagner trop, c'est indécent, je vous le rends ». L'effet Volkswagen, ou bien à la loi. Comme la morale individuelle, ça marche pas, parce qu'en effet, on compare avec Mbappé ou avec des pilotes de Formule 1, il faut légiférer. Mais avec un système de pistons, de soupapes, qui permettent d'avoir les meilleurs patrons au monde au service de notre industrie française, pour le meilleur des salariés français et des emplois en France.
Il n'y a pas que la France insoumise qui a cette idée.
Le PS a déposé aussi à redéposer une loi.
Pas que.
Et puis sur les super profits, ça rejoint cette réflexion
sur les super salaires. Emmanuel Macron, lui-même, en 2022, en pleine campagne présidentielle, qui avait effectivement soulevé ce problème à l'époque déjà concernant la rémunération de Carlos Tavares. Écoutez, on va l'écouter.
C'est choquant, c'est excessif. Je pense qu'il faut à un moment se donner des plafonds et avoir une gouvernance pour notre Europe qui rende les choses acceptables. Sinon, la société, à un moment donné, explose. Les gens ne peuvent pas avoir des problèmes de pouvoir d'achat, avoir la difficulté, l'angoisse dans laquelle ils vivent et voir ces sommes.
Voilà, on était effectivement en pleine campagne européenne, mais il dit quand même une chose intéressante sur le fait de plafonner la rémunération, non pas au niveau national, mais au niveau européen, ça se décide pas, ça peut pas se décider au niveau national.
Sur le plan français.
Je m'inscris un peu en faux avec tout ce qui a été dit. Il faut savoir ce que l'on veut et où on vit. C'est le principe du capitalisme libéral. On peut le dénoncer, il a ses excès, cette somme est aberrante, mais c'est le principe du capitalisme libéral dans un système libéral, dans un état de droit. C'est dans la sphère privée. Une entreprise privée, elle a le droit de faire ce qu'elle veut.
Bien sûr,
et s'ils veulent lui donner 400 millions d'euros, mais et rentrer par une loi dans la sphère privée pour légiférer...
Ouais, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas réguler le marché quand le marché devient
fou ? Il y a une solution beaucoup plus facile, mais personne n'en parle. Nous sommes la République française, mais on corrige par l'impôt. On dit, pour certaines tranches de rémunération, le fisc arrive, merci monsieur Tavares de gagner 36 millions, on va vous en prendre 22 pour distribuer
enfin, Perico, aux gens qui en ont besoin. Tu sais très bien qu'il va aller ailleurs, de tu mères, si d'un seul coup il y avait une taxe hyper importante, ce sont des multinationales.
Faut savoir ce que... Donc, que feront les
le sociétés siège va être mis ailleurs.
Elles savent très bien qu'elles pourront pas... Non, ils ne pourront pas aller ailleurs.
Il est à Amsterdam, le siège.
Mais on sait qu'en France, si on légifère, ça sera pire. Au moins, on sait.
Mais je prétends pas qu'il faut légiférer. On est tous d'accord, par exemple.
Parce que tu ne peux pas imposer une entreprise de dire si vous augmentez votre patron, vous devez. On n'a pas rentré dans cette considération.
Je suis d'accord.
Ou alors, on est dans une économie dirigée avec un autre système politique.
C'est une précision. Il paye ses impôts en France, Carlos Tavares.
Alors là, la solution serait aussi de s'assurer, parce que nous avons beaucoup de grands patrons, y compris des grands patrons, j'allais dire, qui défendent les intérêts français, dont on sait que par le jeu d'optimisation fiscale et des cabinets de juristes qu'ils ont, ne payent pas d'impôts. Ça, c'était absolument inadmissible. Alors, sans aller jusqu'à l'excès du mettre 70% d'une
tranche de 70%. Bien sûr que non.
Mais par contre, voilà, le fisc est là.
On va s'arrêter à 70, on pourrait aller au-delà pour
non, non, mais j'ai dit que le fisc.
Excessif.
Non, mais j'ai dit, votre projet de loi est embêtant, vous rentrez dans ce système libéral. Oui. Au nom d'un code moral public qui défend les intérêts de la citoyenneté.
Au nom de la régulation.
Oui, mais vous vous mettez dans la gestion d'entreprise et là, vous pouvez vous tromper. Parce que l'entreprise veut dire, moi, je ne peux pas augmenter mes smicards parce que mon équilibre économique fait que je ne peux qu'augmenter celui qui engendre ses richesses.
Est-ce que vous nationaliseriez Stellantis si vous étiez au pouvoir?
C'est un début de nationalisation.
Mais non.
Entrer dans la loi.
Au passage... BPI France est déjà au capital de Stellantis.
Oui,
il y a un administrateur au conseil d'administration. Donc,
si vous comptez,
on a quand même, l'État n'est pas absent de cette discussion.
Mais
en revanche, moi je ne suis pas favorable au système que vous décrivez où, parce que c'est une entreprise privée, alors tout est autorisé,
mais si, parce
tout
que est le permis,
n'importe quoi.
Vous êtes contre une fiscalité spéciale pour ça.
Mais non, je suis favorable à ce qu'il y ait un barème qui ajuste, y compris à un taux de 100% au-dessus d'un certain montant. Mais ça, c'est de la redistribution après.
Moi, c'est la seule chose.
La proposition que nous faisons de salaire maximum.
C'est la seule chose acceptable politiquement.
Et je termine là-dessus.
C'est la seule chose acceptable.
La salaire maximum par la loi, c'est la redistribution à la source. Oui. Pourquoi attendre que les problèmes existent pour essayer de les corriger alors qu'on peut empêcher qu'ils existent?
Bernard Cohen-Haddad, Roselyne a soulevé la question tout à l'heure. Le salaire d'Mbappé, 72 000 euros par an.
72 millions.
J'ai oublié quelques zéros. 72 millions d'euros par an. Pourquoi ça fait. Alors, il y a toujours des polémiques sur les salaires des footballeurs, mais ça prend pas les proportions que ça prend pour Carlos Tavares. Et pourtant, il crée nettement moins d'emplois.
Parce que là, on n'est pas dans un débat sportif, on est dans un débat social. Et Perico Legas a totalement raison. On rentre dans le domaine de la sphère de l'entreprise, d'un contrat privé. Quant à vous, Monsieur Tavel, vous avez totalement raison. 1 à 20. Pourquoi pas? Mais c'est ce que faisait Henry Ford dans son entreprise.
Voilà.
Rockefeller faisait 1,40. Depuis, il y a beaucoup d'eau qui est passée sur le pont.
Ils étaient beaucoup plus sociaux.
Ils étaient des patrons sociaux.
Et il y a
un code MEDEF APEC qui fait en sorte de limiter un certain nombre de débordements. C'est-à-dire, quand un patron
c'est Jean Gandois, le premier.
Exactement, ne fait pas des bons résultats, normalement, on lui donne pas des bonus.
Qu'avait fait la faillite.
Donc là, on reste dans le domaine de privé. Voilà. Donc seul l'impôt et le soutien des actionnaires permet de limiter ce type de débordement.
Il y a quand même une question. Il y a une question qui se pose qu'on n'a pas encore posée. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. C'est Bouba qui la pose. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille?
Non, mais lui demander.
C'est la question. Qui a besoin? Mais alors, vous nous expliquez la logique, les profits, etc., les risques qui sont pris. Qui a besoin de 36,5
millions? Vous avez ce que disait Marcel Dassault.
On ne fait que 3 repas par jour. 36,5 millions d'euros par an.
Attendez, là, on est en train de présager. Peut-être qu'il est réinvesti. Peut-être que c'est des millions en vendant d'autres richesses.
Moi, je vais vous donner la réponse. J'ai lu une interview de lui dans Challenge récemment. Oui. Il disait, j'investis pour mes petits-enfants dans des oliviers et des vignes au Portugal. Ça coûte quand même pas 36,5 millions.
Il est portugais d'origine. Et c'est un signe très important pour moi. Et je vois je savais ce détail. Et il réinvestit dans l'économie portugaise.
Mais d'abord, je suis contre la défense.
Non, j'aimerais bien. Alors, je vais vous dire. Je voudrais bien. Je suis d'accord sur la somme. 36 millions, c'est aberrant. Je voudrais bien que tous les grands patrons qui gagnent ces sommes astronomiques aient le même comportement de réinvestissement qu'Arnaud Tabarly.
Et la fiscalité pourrait être indexée sur le taux de réinvestissement.
Aucun être humain n'a des besoins 1700 fois supérieurs à d'autres. Et vous nous dites, il les réinvestit pour ses petits-enfants.
Mais on est c'est lui qui explique ça.
Donc du coup, on reproduit l'inégalité et ceux qui se sont donné juste la peine de naître en étant les enfants de Monsieur Tavares partiront avec un avantage que les autres n'ont pas. Et donc la question de l'inégalité, de l'injustice qui est posée par là, c'est pas juste une question morale. C'est comment on organise une société et une entreprise. C'est pas juste des actionnaires et un patron. C'est des salariés et c'est un impact sur la société. C'est ça qu'on veut faire en limitant par la loi les écarts de salaire dans les entreprises.
La possibilité de la révolution socialiste et d'un collectivisme efficace. Ça n'a pas marché. Mais si,
manifestement.
J'ai cru à ce système. Je constate qu'il conduit au goulag. Donc le tout état va au goulag, le tout argent va là. Est-ce qu'on peut trouver
Monsieur Légas, entre le goulag et Carlos Tavares, il y a l'intelligence.
Non, on est d'accord.
Voyez-vous, je pense que vous en êtes capable comme moi.
L'intelligence est assez artificielle.
Bon, on va s'arrêter là. Merci Mathias Tavel et merci Bernard Cohen-Haddad d'avoir été les invités ce soir de BFM TV.